émission Dialogue entre Congolais avec Alain Irung.
Bonsoir. À moins de trois semaines de la tenue des élections, des cas d'intolérance politique se multiplient à travers la RDC. Comment analyser cette situation et quelles solutions y apporter? Nos invités dans cette émission sont Jonas Tshiombela, président de la Nouvelle Société Civile du Congo. Monsieur Tshiombela, bonsoir.
Bonsoir.
Ida Sawyer, chercheuse et chargée de plaidoyer à Human Rights Watch pour la RDC, basée à Kinshasa. Madame Sawyer, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Philippe Bioya, politologue et professeur de relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur Bioya, bonsoir.
Bonsoir.
Et comme d'habitude, chers auditeurs et internautes, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Junior Kachala de Johannesburg en Afrique du Sud, nous demandons à l'opposition et à la majorité de faire preuve de maturité ainsi que de tolérance envers les autres, car nous n'avons plus besoin des morts ou des casses au Congo, mais nous avons juste besoin de construire notre pays avec des gens qui ont le souci de la nation. Igil Majado de Bukavu Sud Kivu, l'intolérance pendant la campagne électorale prépare déjà l'intolérance après la publication des résultats. Pour y remédier, seule la signature du code de bonne conduite ne suffit pas. Il faudrait plutôt créer une police spéciale qui se chargerait d'arrêter tout dérapage. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les tensions nées du lancement de la campagne électorale sont perceptibles dans certaines parties de la RDC. Elles s'observent non seulement entre certains partis de l'opposition et de la majorité, mais aussi entre partisans d'une même plateforme politique. Cette intolérance se manifeste soit par des affrontements, des injures lors des marches ou des meetings au cours desquels des chansons véhiculant des messages de haine sont entonnées. Des attaques personnelles à peine voilées sont distillées à travers certains médias en lieu et place des projets de société. Plus de détails avec vous, Kéline Côté.
Au Katanga, cette tension se manifeste à travers des incidents qui opposent les militants des grands partis, comme l'UDPS, l'UNAFEC, le PPRD. Lundi dernier, par exemple, les militants de l'UDPS ont sillonné les grandes artères de la ville de Lubumbashi, brandissant des cartons rouges, synonymes des sanctions à infliger à la majorité au pouvoir, acte que les autres assimilent à de la provocation. Ce même jour, plusieurs affiches des candidats étaient déchirées par des inconnus. Au Sud Kivu, des actes d'intolérance politique s'amplifient entre partisans des candidat à la présidence de la République. Dans la ville de Bukavu, un groupe d'hommes acquis à la candidature de Joseph Kabila ont agressé un jeune homme pour sa conviction contraire. À Mwenga, toujours au Sud Kivu, le bureau de l'UNC est interdit d'ouvrir ses portes sur demande des autorités coutumières. Dans la cité de Baraka, en territoire des Fizi, les partisans du Panader se déclarent menacés. Au Kasaï oriental, il y a quelques jours, plusieurs incidents ont été enregistrés dans la ville de Mbujimayi. Des accrochages ont opposé les membres de l'UDC et ceux du PPRD. On parle des blessés et des arrestations. Violence électorale signalée aussi à Kalima dans le Maniema. Là, on assiste à l'affrontement des partisans des formations politiques membres d'une même plateforme politique, à savoir la majorité présidentielle. Il s'agit des membres de la FDC de Bahati Lukwebo et ceux de la NAD d'Athanase Matenda Kyelou. Ils se sont battus la nuit dernière. Les bilans de ces altercations font état des deux blessés internés à l'hôpital général.
Merci Kéline Kouté. Jonas Tshiombela, je rappelle que vous êtes président de la Nouvelle Société Civile du Congo. Comment vous analysez cette situation?
La situation est très, très critique en cette période où tout le monde pense aux élections apaisées et nous voilà dans une campagne agitée par le partisan soit de l'opposition, soit de la majorité, soit le même camp qui s'affronte sur le terrain. Cette situation nous inquiète beaucoup parce que nous ne pouvons pas imaginer ce que ça peut produire comme conséquence dans la vie de chacun de nous et partout dans le pays. Lorsque vous avez vu la cartographie de la violence à travers des cycles de violence à travers la République, il y a de quoi nous poser la question si nous sommes en train de tendre vers des élections agitées ou apaisées. Donc, il y a toutes ces questions qui sont encore en train de ressurgir. Il y a même des discours de la haine qui sont tissés dans le média par les acteurs politiques. On l'a entendu au Katanga, on l'a entendu ici à Kinshasa, et ces actes et ces gestes ne sont pas de nature à nous conduire vers des élections apaisées. Ça s'est produit à Mbujimayi, on l'a rappelé tout à l'heure, ça s'est produit à Kisangani, ça s'est produit à Mbujimayi. Je vous dis aussi qu'à Kindu, le siège du PPRD a été saccagé, et aussi en Mbandaka, le siège du parti du gouverneur a été toujours des inconnus. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Alors, il y a tout ça, ça ne peut pas quand même nous dire que nous sommes là en train de progresser vers des élections apaisées.
Alors, Jonas Tsombela, à quoi vous attribuez cette situation? Est-ce qu'on pourrait parler d'une certaine impréparation de la part des acteurs politiques, de la société civile, qui n'ont pas suffisamment préparé le terrain pour que tout se passe dans le calme?
Ce n'est pas les acteurs de la société civile. Ouais, ce sont des actes prémédités par la classe politique. Mais pourquoi ils ne condamnent pas tout ce geste? C'est pour cette raison qu'ils disent que c'est des actes prémédités, c'est organisé, c'est programmé. Donc, parce qu'ils ne condamnent pas, nous estimons qu'ils sont dans les coups et ça les profite. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas parler de la préparation de cette situation comme telle. Donc, nous disons, pour nous, la classe politique est en train de préparer un peu le chaos. Donc, la société civile, vous savez qu'elle a été exclue à la CENI, mais elle n'a pas baissé le bras. Elle est en train de travailler sur la sensibilisation. Donc, pour le moment, nous sommes surpris de voir que ceux qui sont censés appeler à la paix ne le font pas. Mais nous sommes là en train de nous impliquer pour davantage parler de la paix et des élections apaisées.
Est-ce qu'on pourrait dire que la société civile a échoué, puisque si elle avait bien fait son travail, même s'il y avait manipulation, il y aurait manipulation politique de la part des politiciens, la population bien formée, bien éduquée, aurait quand même résisté.
Mais vous savez, vous n'allez pas parler que la société civile a échoué. Il faut peut-être poser la question, il y a un moment donné. Vous savez que ceux qui sont dans ce cycle de violence, c'est la jeunesse qui est instrumentalisée par la classe politique. Et cette jeunesse qui est instrumentalisée, c'est cette jeunesse, il n'y a pas longtemps qu'on est en train de chasser avec la tolérance zéro. Et voilà, elle est devenue bénéfique pour des questions politiques. Donc, c'est un problème de la classe politique congolaise qui croit qu'elle a la solution de tout, et le voilà, ils sont en train de le mettre encore dans une situation très compliquée. Donc la société civile n'a pas échoué, elle est en train de travailler, mais elle est bloquée par l'action de l'homme politique, parce que lui, il a tout le moyen pour faire tout ce travail en toute impunité en plus. Voyez ça. Donc il y a un problème à ce niveau où la société civile est bloquée par la classe politique pour qu'elle ne puisse pas avancer sur le terrain de la paix, comme elle, la classe politique, aime mieux faire la violence. Elle est devenue même une stratégie pour accéder ou conserver le pouvoir. Pour nous, c'est une question de voir si on peut encore parler de la classe politique responsable au Congo.
Il y a eu beaucoup d'appels, Jonas Tsombela, beaucoup d'appels à l'apaisement de la communauté internationale, des confessions religieuses ici sur place, de la société civile. Et comment vous expliquez cette, entre guillemets, surdité face à tous ces appels?
Mais c'est des gens qui s'en foutent, ils savent que soit qu'on conserve le pouvoir, soit qu'on accède au pouvoir. Donc pour eux, c'est le pouvoir, ce n'est pas les vies humaines qui comptent pour le moment. Parce que quand on voit, on ne va pas gagner le pouvoir sans les vies humaines. C'est ce qui doit nous interpeller, nous. Nous sommes aussi de ceux qui ont appelé à la paix, à l'apaisement même. Et nous avons même, au niveau de la nouvelle société civile, lancé un ultimatum de 7 jours. Nous avons demandé à la majorité, et nous avons été un peu plus clairs sur cette fois-là, que l'UDPS et le PPRD s'organisent pour appeler au calme leurs militants. S'ils ne le font pas dans le délai de 7 jours, nous allons nous assumer et mobiliser la population pour organiser des marches pour qu'il y ait quand même des élections apaisées dans ces pays. On ne peut pas organiser ces marches-là pour attaquer les uns les autres, mais pour qu'un jour, on puisse aboutir à des élections apaisées. Donc, ça fait partie de ces gestes que la société civile est tentée de multiplier en direction de la classe politique de notre pays afin de nous conduire vers les élections apaisées.
Professeur Philippe Iyoya, vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Beaucoup d'appels à l'apaisement, mais qui semblent n'avoir pas trouvé un écho favorable dans la classe politique. Professeur, comment vous expliquez ça?
Je crois que le problème, ce n'était pas d'appeler. Le problème, est-ce que le temps consacré à ces appels, le temps de préparer les esprits, avait été pris en compte? les choses, on les fait. Je ne sais pour quelle raison. Tout le monde veut donner l'impression que il faut faire vite les choses, il faut plaire, je ne sais pas à qui. On a mis tous les partis politiques demandés, on présentait des délais victoires. La CNI elle-même est un peu dans la danse demandant le délai victoire, alors que tout le monde savait qu'on a commencé le processus en retard, et tout le monde oublie que nous sommes un pays à tradition insurrectionnelle. On nous a déjà dit ici, il y a quelques années, qu'on n'avait pas de culture politique. Ici, les gens sont habitués, généralement, à recourir à la force, à présenter des menaces. Donc, notre culture ne s'apprêtait pas, effectivement, à un processus apaisé, parce que les hommes qui y vont ils ne sont pas apaisés. Moi, je pense que c'est tout le monde, nos institutions, nous-mêmes des personnes, les électeurs et les dirigeants. Mais je crois que nous avons un problème de personnalité politique en rapport avec la démocratie. Je crois ça. Donc, il faut pas faire des choses pour plaire soit à la communauté internationale ou pour donner l'impression, parce que c'est ça le péché du Congo. Les Congolais font pas des choses par conviction personnelle. Les Congolais ne se mettent pas d'accord pour faire quelque chose. Mais quand on aborde le problème dans le désaccord, ça a commencé depuis la loi qui devait mettre en place la CNI, les gens, les institutions ne se mettaient pas d'accord, le Sénat plus l'Assemblée nationale. Et ce désaccord a persisté. Alors, les partis qui n'étaient pas dans le processus sont venus dans le processus, non pas parce qu'ils avaient entre-temps préparé le terrain et qu'ils voulaient faire la démonstration de comment ils sont implantés, ils sont venus pour que l'on sache qu'ils sont là et qu'ils sont différents des autres là. Mais tu vois un peu l'enjeu est en dehors, en fait, de l'essence de ce qu'on peut appeler politique, parce que la politique, par définition, c'est ce qui met ensemble des gens. La politique, c'est pas ce qui divise. Mais chez nous, la politique divise.
Donc, professeur, à vous comprendre, le Congo ou le Congolais n'était pas préparé à affronter ces élections dans l'apaisement.
Mais nous avons eu 15 ans de guerre ici, là. On a eu un gouvernement avec des gens qui sont venus il y avait des entités, il y avait je ne sais pas des composantes et tout ça. Comment vous pouvez penser que la culture de guerre qui a duré presque 15 ans, la dictature qui avait conduit à des oppositions armées ou à des oppositions de militantes et combattantes, comment avons-nous pensé que 5 ans peuvent suffire pour que nous changions de comportement, pour que nous changions de conviction, pour que nous changions de réflexe? 5 ans, c'est peu, d'autant plus qu'en 5 ans, on n'a pas fait les élections. Ailleurs, la culture démocratique s'apprend par la régularité, en fait, des scrutins. On avait un scrutin présidentiel, le scrutin législatif, il y avait d'autres scrutins. Si on s'habitue à faire tout le temps des élections, même pour les municipalités. Or, ici, on ne fait que faire deux élections. On fait la présidentielle et on fait la législative, et vous verrez que les problèmes ne viennent pas nécessairement d'élections législatives, le problème surtout d'élections présidentielles. Alors, on devait savoir que l'élection présidentielle en Afrique, c'est généralement des élections génératrices de crise et il fallait le préparer en conséquence. Mon Asbel Lipris a publié un document dans le journal Le Phare à ce propos. On a fait une étude comparée des expériences électorales en Afrique pour dégager le principe qu'on devait faire attention parce que chaque élection présidentielle en Afrique depuis quelques temps porte en elle-même les germes de sa propre crise. Alors, les gens ne se laissent pas instruire par l'histoire. Alors, on ne doit pas être étonné parce que ici, ce n'est pas qu'on discute, ce n'est pas des projets d'avenir, ce n'est pas l'avenir du Congo, mais on se discute quoi? On se discute en fait les droits acquis. J'ai des mères et il faut être plus fort pour me renverser, pour me faire partir, c'est un peu ça.
Professeur, il y a Jean Boukassa d'Mbujima au Kassai Oriental qui dit il est regrettable de constater que l'on fait plus attention aux affrontements des partisans des partis politiques et aux déclarations de certains leaders politiques et on laisse de côté le vrai problème, tant que la CENI ne se mettra pas au milieu du village et ne jouera pas un franc jeu, les élections ne seront pas apaisées comme le souhaite le monde entier. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, je crois qu'on ne doit pas simplement surcharger la CENI. La CENI elle-même, aujourd'hui, elle est prisonnière de quoi? Elle est prisonnière, en fait, des exigences de partis politiques. Et si, par exemple, il ne s'était pas trouvé dans la classe politique des gens qui estimaient que s'il n'y a pas un président avant les 6 décembre, on va faire l'impasse. Est-ce que la CENI allait, en fait, s'attacher au calendrier? Parce qu'il y a eu une pression. Et on a vu la pression, les gens ont menacé. Moi-même, je ne peux pas suivre le débat. j'ai osé dire qu'on pouvait peut-être trouver des arrangements. Ah, quand vous parlez d'arrangement, vous êtes pour le partage de pouvoir. Donc ici, on ne peut pas s'arranger. On ne peut même pas respecter la Constitution quand elle dit que quelqu'un reste au pouvoir jusque-là. On a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mis 5 ans pour qu'ils se mettent d'accord pour aller aux élections qui ont amené à une crise. 5 ans. Il n'y avait pas de parlement, il n'y avait pas de légitimité, mais ils se sont mis en 5 ans, mais après tout, il y a encore eu des problèmes. Mais nous, ici, quand on dit on reporte, ah non, celui qui est au pouvoir, il doit partir. Mais il va partir comment? Alors, tu vois, à la fois, ou bien on veut respecter le texte, ou on ne veut pas le respecter, ou on s'en prend à des personnes, on est jaloux des individus, ou on est, en fait, on veut servir la nation. Parce qu'ici, on ne doit pas dire tel, il a fait longtemps, il ne doit pas rester. Donc j'ai l'impression que l'élection chez nous, ce sont des campagnes contre peut-être certaines personnes. Alors quand vous attaquez quelqu'un, il a aussi ses frères, ses fanatiques, il se défend aussi. On a trop personnalisé, on personnalise trop les enjeux politiques chez nous. Merci. C'est trop personnel, on ne voit pas la nation, on ne voit pas l'avenir, on ne voit que des individus et c'est ça qui fait le problème.
Merci professeur Philippe Bioya. Ida Sawyer, vous êtes chercheuse et chargée de plaidoyer à Human Rights Watch pour la RDC basée à Kinshasa. On se rappelle que votre ONG a multiplié des communiqués pour dénoncer des cas d'intolérance. À quoi vous attribuez cette situation?
Donc oui, nous sommes aussi très inquiétés par rapport à la situation et aussi le climat de peur qui a été créé dans certaines régions du Congo au cause des multiples violations commises contre les candidats, leurs partisans, des journalistes et des activistes des droits de l'homme. Nous sommes aussi très inquiétés par rapport à la discours à la haine et l'incitation à la violence utilisée par les candidats et leurs partisans. Nous condamnons fortement ce langage incendiaire et inflammatoire qui est utilisé par certains candidats et leurs partisans et qui peut seulement intensifier l'intolérance, les tensions ethniques et qui peut aussi provoquer la violence et une période électorale sanglante. Et nous étions, par exemple, très découragés par le discours de Tshisekedi le dimanche soir quand il a fait son interview par téléphone sur le RLTV et où il a utilisé des langages qui pourraient être considérés comme l'incitation à la violence. Je cite, par exemple, son appel à son base de, je cite, « fasse une mobilisation totale afin d'aller libérer les militants et autres opposants et casser toutes les prisons ». Et s'ils auraient été menacés par les policiers ou des militaires, Tshisekedi a fait un appel à ses partisans de les traquer jusqu'à leur base pour recevoir une bonne correction même devant leur famille. Ce type de langage risque de provoquer une campagne électorale sanglante. Ce n'est pas le seul cas que nous et d'autres activistes des droits humains ont documenté. Nous sommes aussi très inquiétés par le langage et les discours à la haine utilisés dans la province du Katanga par le président de l'Assemblée provinciale Gabriel Kyungu et le leader du parti politique UNAFEC, membre de l'Alliance électorale de Kabila. Kyungu a déjà été impliqué par le passé dans l'incitation à la violence contre les personnes des provinces du Kasaï. Au début des années 90, lorsqu'il était gouverneur de la province, il a utilisé à plusieurs reprises des discours haineux contre les habitants du Kasaï. Pendant cette période, quand il était au pouvoir, il y avait des milliers de personnes originaires du Kasaï tuées et des centaines de milliers de personnes expulsées de la province par force. Cette année, on a écouté le même type de langage, discours à la haine par Kyungu, depuis le début de l'enrôlement. Je cite par exemple un discours à Likasi qu'il a fait le 31 avril, où il a fait référence aux personnes des provinces du Kasaï vivant au Katanga en disant, je cite, « Il y a maintenant trop de moustiques au salon, il faut maintenant mettre de l'insecticide ». Depuis ces dates, il y avait plusieurs accrochages entre les partisans de l'UDPS et les partisans du NFEC au Katanga. Juste pendant les derniers quelques jours, il y avait plusieurs blessés et au moins une personne tuée à Lubumbashi pendant ces accrochages. Pour éviter ce type de violence, nous pensons que c'est absolument nécessaire que les candidats et leurs partisans abstiennent de toute forme de discours à la haine ou incitation à la violence.
Mais est-ce que cela suffit? Parce que, comme je le disais tout à l'heure à Jonas Tshombela et au professeur Bioya, la communauté internationale a lancé beaucoup d'appels. Les ONG internationales, nationales ont dénoncé plusieurs fois, appelé, rappelé à la tolérance, mais ça semble l'être morte. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, donc ce c'est bien sûr la responsabilité des candidats et les autorités politiques, mais aussi c'est les autorités judiciaires qui devront intervenir pour arrêter ce genre de comportement. Il y a aussi des mesures disciplinaires qui devront être prises contre les candidats qui utilisent ce type de discours. Donc, par exemple, nous pensons que la réponse de la CESAC était appropriée après le discours de Tshisekedi avec la suspension de RLTV pour 7 jours et lettre d'avertissement qui était envoyée à Tshisekedi. Et c'est important que ces types de mesures sont prises. Néanmoins, je dois dire que nous sommes très inquiétés par les multitudes d'autres incidents injustifiés où les autorités ont suspendu des maisons des médias ou quand ils ont menacé, intimidé, arrêté arbitrairement ou même torturé des journalistes parce qu'ils ont diffusé ou publié des informations liées à l'opposition.
Alors, puisque vous abordez déjà la deuxième partie, sachez que pour Jean-Pierre Kambila, cadre du PPRD, conseiller politique du chef de l'État, la solution à apporter à ces cas d'intolérance politique est que les leaders politiques doivent avoir un langage clair et accepter notamment la contradiction. On l'écoute au téléphone de Samuel Kachak.
Ça prouve que pour certains leaders politiques, la culture démocratique n'est pas encore tout à fait établie. Pour ça, la solution, à mon avis, elle est à la fois simple et malheureusement difficile à appliquer. C'est d'abord que ceux qui se prétendent leaders aient un langage clair quant à la manière dont nous voulons aller vers cette élection. Avoir un langage clair, c'est de dire très ouvertement que la démocratie a des règles et qu'il faut respecter ces règles-là. Notamment que les débats doivent se faire dans un climat apaisé et que d'accepter la contradiction, ni l'injure, ni l'invective, ni l'incitation à la haine. Lorsque nous attendons des leaders politiques de très haut niveau, personne ne conteste, commencer à inciter clairement les gens à aller vers la violence, nous avons quelques raisons d'avoir peur quant à la suite qu'il y aura de ce processus électoral dans notre pays.
Pour Albert Moleka, directeur de cabinet et porte-parole d'Étienne Tshisekedi, la solution à l'intolérance politique passe par la restauration de l'autorité de l'État. On l'écoute une fois de plus au téléphone de Samuel Kachak.
Nous nous trouvons dans un environnement politique dans lequel se trouvent des acteurs qui n'ont pas une culture de tolérance. Je pense que les responsabilités sont partagées par tout le monde qui, à travers leur comportement, doivent cultiver cette tolérance. Mettre fin à l'intolérance politique, il faut tout d'abord la restauration de l'autorité de l'État. L'autorité veut dire d'abord prêcher par l'exemple, vers une attitude de comportement citoyen, de respect de la liberté des autres et respect aussi du droit des autres. Chez nous, il y a une méfiance exacerbée entre les forces de l'ordre ainsi que les civils, alors que les forces de l'ordre sont supposées protéger d'abord les personnes ainsi que leurs biens. Mais nous avons trop souvent l'image des policiers, des militaires qui exercent la violence sur les citoyens.
Jonas Tshombela, jusque-là, les appels n'ont pas produit des fruits. Albert Moleka parle de la restauration de l'autorité de l'État. Jean-Pierre Kambila du PPRD parle de l'acceptation de la contradiction, avoir un langage clair, appeler à l'apaisement. Que faut-il de plus pour mettre fin à ces cas d'intolérance?
Mais je crois qu'il faut renforcer, vous savez, dans notre société, je crois que Ida venait de le dire tout à l'heure, que le discours de la haine n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ces gens qui ont organisé ces milliers de morts, par exemple au Katanga, continuent à être promus par-ci par-là et ils sont même autorités dans le pays. Donc il y a un problème de l'impunité dans notre société qui est presque devenue comme une sorte de mode de gestion d'une nation, qui est un danger d'ailleurs, parce que quand quelqu'un pose ce type d'actes, gestes dans la société, la justice est là, mais elle est insensible. Elle est insensible. Je me demande même si la logique, on pouvait aller plus loin avec cette même logique-là, ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé à M. Tshisekedi, à RLTV, devait aussi arriver au Katanga. De cette manière-là, ça donne des leçons. Mais quand il y a d'un camp, c'est comme si il y a un camp qui est intouchable, il y a un camp qu'on doit toucher, c'est ça qui pose des problèmes dans la société. Donc on doit pousser la logique très loin aussi à toucher tous ceux qui sont en train de tenter de déséquilibrer la société congolaise avec des discours de haine, avec des messages qui peuvent compromettre l'avenir de milliers de générations de Congolais. Donc pour nous, nous croyons qu'il faut réhabiliter vraiment et réellement la justice de notre pays pour s'attaquer à ces mal qui est l'impunité dans la société.
Dans un communiqué, la CENI a dernièrement condamné ces actes d'intolérance, mais aussi elle a menacé la semaine passée, par exemple, de dénoncer publiquement les candidats qui violeraient le code de bonne conduite en campagne électorale. Est-ce une solution efficace?
Non. La CENI, elle est incapable de beaucoup de choses. Nous aimons bien la CENI, vous savez qu'il y a des gens qui ont postulé, qui étaient encore en train de travailler, qui sont encore en train de prester dans l'administration publique, mais qui sont des candidats. C'est à peine qu'ils sont en train de quitter, mais c'est l'une des pièces des dossiers qui devait constituer déjà le déclassement de la candidature de la personne, mais la CENI, à ce point-là, elle ne nous a pas convaincus. Donc, tout au début, avant que la campagne commence, la CENI nous avait promis que tous les effigies qu'on pouvait voir, ceux qui faisaient la pré-campagne, tout ça, et elle allait descendre dans la rue. On n'a pas vu la CENI sur cette question. Donc, ce n'est pas pour autant dire qu'elle ne fait pas autre chose bien, mais elle le fait bien. Mais sur ce point-là, je crois que la CENI paraît un peu complaisante.
Deux auditeurs pour vous, Jonas Tchombela, Kipoka Japs de Moba au Katanga. Les hommes politiques ont le devoir de sensibiliser leurs militants en leur disant qu'aux élections, il y a toujours un gagnant et un perdant et que perdre n'est pas la fin du monde. Fabien Kasonga de Kinshasa, chaque leader doit jouer à l'apaisement en évitant les propos haineux et violents sans provoquer les autres. Les médias doivent éviter de gonfler les propos moins bons et dramatiser le plus mauvais. Et enfin, la police doit revoir ses méthodes d'encadrement des manifestants. Réaction.
Oui, je crois que je partage parfaitement les idées de compatriotes qui viennent nous interroger là. Prenez le cas de l'espace de partis politiques. Ça devait être un espace où on éduque les militants. Mais là, c'est un espace où on est en train de monter des militants contre des autres. Même pas des idées. Des militants qui ne parlent que des individus. On ne sait même, ils comprennent même pas ce qu'il y a dans leur propre parti. Comment le projet de sauter leur parti. Mais c'est des individus qu'ils vendent. Donc, nous pensons, pour nous, l'espace des partis politiques devait être un espace où on pouvait éduquer les masses à la culture de la démocratie, à la culture de la tolérance. Et aussi, vous savez que la MONUSCO, j'ai entendu il y a un bout de temps qu'ils ont formé des brigades de la police pour protéger les manifestants. Mais on ne le voit pas. Quand on voit la brutalité qui est en train de se faire là où il y a des manifestations, on se demande si on utilise ces éléments là où on ne les utilise pas. Donc, c'est un problème, c'est aussi un problème de conscience professionnelle pour les policiers qui sont affectés à ce type de choses. Donc, je partage parfaitement le point de vue des compatriotes et je me dis si le parti politique n'ont pas échoué. Je me demande s'ils n'ont pas échoué.
Professeur Philippe Bioya, tout à l'heure, vous disiez que le processus portait déjà des germes des conflits. Faudrait-il craindre le pire, professeur, alors quelle serait la solution?
Non, je crois que, tu vois, c'est dommage que ce débat ouvre le fait que lorsque la situation est en train pratiquement de courir.
Radio Katanga n'a fait que ça depuis le début.
Oui, non, je dis de façon générale, nous sommes dans un pays où les gens ne réfléchissent pas sur la manière dont ils vivent. Lorsque, par exemple, on a regardé ailleurs, on voit que l'élection présidentielle fait le problème. Et quand on connaît, en fait, ce que notre société est devenue, parce que ici, dans notre pays, le pouvoir politique, c'est devenu, c'est le seul boulot, c'est le seul travail. Tout le monde vit de ça. Et il n'y a personne aujourd'hui qui contrôle le pouvoir politique parce que le contrôle du pouvoir politique vous donne le contrôle. Ne peut abandonner ça n'importe quand. Alors, je pense qu'on aurait dû réfléchir. Au lieu de changer, par exemple, le mode de scrutin présidentiel en un seul tour, on aurait dit, par exemple, que le président de la République au Congo, dans le contexte d'aujourd'hui, ne vient pas des partis politiques. Il est élu, par exemple, au second degré, par exemple, par les parlementaires. En ce moment, on aurait résolu le problème. C'est parce que ni le problème de la tolérance, ni le problème de l'organisation de l'État ne peuvent résoudre, en fait, les contradictions qui sont liées aux ambitions, aux soifs, aux peurs des gens. Il y a des structures, il y a des réformes qu'on doit faire pour apaiser. La décentralisation, puisque les gens demandent à gouverner d'abord les provinces, à être de voix chez eux, je crois qu'en leur donnant ça, réduirait en fait la pression sur la fonction des chefs de l'État. Parce que c'est ça qui fait le problème. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut peut-être que la communauté internationale, parce que c'est elle qui aussi est à la base de tout ça, parce que c'est elle qui crée parfois des situations, et puis après, elle disparaît, mais derrière les ONG pour condamner ceci, alors qu'on aurait dû conseiller tout le monde que le problème, c'est que les situations soient apaisées, que le processus fonctionne normalement. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui va encore parler. L'Union africaine a essayé de parler, les politiciens, ils n'entendent personne. Bon, alors, ceux qui ont des armées, mais qu'ils envoient les armées pour que les armées dissuadent. Parce qu'il y en a eu. Mais on a même vu qu'en 2006, la MONUC, l'Union européenne, ils étaient ici. Ça n'a pas empêché que les gens, à ça, se tirent dessus. Bon, je pense qu'il faut réfléchir à ça sérieusement, sérieusement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit au commencement, il faut que l'on sache que les élections, nous ne les faisons pas avant tout pour faire la promotion des individus ou des provinces. On fait des élections pour voir si nous avons des forces, nous avons des individualités qui peuvent effectivement répondre au rendez-vous de l'avenir. Parce que nous voulons voir chaque fois si nous avons des forces capables de poursuivre en fait la marche de l'histoire avec les autres nations. Bon, mais malheureusement, nous ici, nous travaillons toujours en fonction du passé. Ce que nous avons eu hier, c'est ce que nous voulons être toujours. Nous ne sommes jamais par rapport à l'avenir. Tu vois, l'approche de toutes ces choses-là, c'est une approche qui ne nous permet pas d'éviter des conflits. Hein? Parce que nous ne discutons pas quelque chose qui nous mette tous d'accord. Nous ne discutons pas, en fait, un enjeu qui est en dehors de nous-mêmes. Je pense que c'est des choses importantes. Les partis politiques ne fonctionnent pas bien parce que les partis politiques ne prennent pas le temps de conscientiser, de former, de réfléchir sur les choses. Les partis politiques se positionnent seulement autour des enjeux comme les élections pour commencer à se disputer quoi. Ils se disputent pas l'avenir du pays, ils se disputent en fait leur propre promotion parce que certains individus doivent devenir tel quelque chose et avec eux peut-être la situation va changer. Alors tu vois, il y a une sorte de pesanteur qui fait que nous ne soyons pas suffisamment élevés. La pesanteur nous attire toujours vers le bas.
Professeur, je vous demande d'être un peu plus concret, hein, très brièvement. Vous dites qu'il faudrait réfléchir profondément, mais il reste moins de 3 semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire en un mois?
Non, mais dans 3 semaines, au jour d'aujourd'hui, là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la chose pour sauver la situation, les administrations devraient en fait prendre la place vraiment de l'État, assumer l'État, parce que l'État est un bouclier protecteur. Parce que la plupart des dirigeants sont dans la campagne. Tout le monde est dans la campagne. Alors, à ce moment-là, qui gère le pays en dehors de... Parce qu'on ne peut pas être vraiment juge parti.
Merci.
Tu vois. C'est ça, en fait, la difficulté aujourd'hui.
Merci. Ida Sawyer, Jonas Tshombela mettait tout à l'heure l'accent sur l'impunité. Certains observateurs pensent que le procureur général de la République, par exemple, devrait se saisir de certains cas d'office, par exemple.
Oui, nous sommes tout à fait d'accord que la culture d'impunité qui existe toujours est à la base de la continuation des conflits et d'intolérance ici au Congo. Je pense qu'un des cas le plus flagrant aujourd'hui, c'est le cas de Thabo Entaberi Sheka, qui est leader de milice Mai Mai Sheka, et qui est... Selon un rapport des Nations Unies, il était parmi les commandants d'un viol massif en juillet-août 2010 de plus de 380 civils. Et aujourd'hui, il est candidat pour être député national pour Walikale au Nord-Kivu. Et nous pensons que de ne pas arrêter un homme qui est tranquillement en train de faire campagne pour gagner des voix envoie le message que même les crimes les plus insignes ne seront pas punis. Et ce type de situation peut seulement encore donc continuer l'intolérance et aussi donc au sein de les communautés. Et nous pensons qu'on ne peut jamais mettre fin à cette intolérance si les responsables de ces graves crimes sont donc deviennent des politiciens ou des leaders de l'armée. Je cite un autre exemple, le cas de général Bosco Ntaganda, qui est recherché pour crimes de guerre par le Cour pénal international et qui est aujourd'hui un général dans l'armée congolaise et il est le commandant des opérations à l'est du Congo et dans cette position, il continue d'être responsable pour les atrocités à l'est du Congo, y compris les assassinats, les enlèvements, les arrestations arbitraires, etc. Donc si on ne met pas fin à cette culture d'impunité, les conflits et l'intolérance vont continuer.
Alors, avant ça, vous avez parlé des mesures disciplinaires que vous avez encouragées à l'endroit des médias, des personnalités qui diffusent des messages de haine. Cela suffit-il? Est-ce une solution efficace?
Je pense que c'est partie de la solution, mais il y a d'autres choses qui sont nécessaires aussi. Je pense qu'un autre grand problème, c'est la force excessive et injustifiée qui est utilisée par la police pendant les manifestations de l'opposition. Et c'est très important que les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu soient respectés. Et les forces de sécurité ne doivent pas utiliser que le degré de force nécessaire et proportionné pour protéger les personnes et les biens et ne doivent pas recourir à une force létale intentionnelle que si cela est absolument inévitable pour protéger les vies humaines. Et on a déjà documenté plusieurs cas ici à Kinshasa, à Mbujimayi et dans d'autres villes où la police et d'autres forces de sécurité ont utilisé trop de force et on avait des morts et des blessés. Et nous croyons que les élections ne peuvent pas être crédibles si les candidats et les partisans ne peuvent pas tenir des manifestations exemptes d'attaques et d'intimidation.
Merci Aïda Sawyer. Nous poursuivons l'émission juste après cette courte pause.
Radio Okapi commence à diffuser l'invité du jour électoral de 10 minutes avec les 11 candidats à l'élection présidentielle ou leurs délégués. Ce sera à partir de ce jeudi 10 novembre 2011 de 7h33 à 7h42. L'ordre des diffusions sera celui de la CENI, c'est-à-dire nous commençons avec le candidat président numéro 1 pour terminer avec le candidat président numéro 11. Il va sans dire que le candidat président qui ne se fera pas enregistrer ne pourra pas bénéficier de ces 10 minutes de parole lui accordées par Radio Okapi pendant cette campagne électorale.
Jonas Chambela, je rappelle que vous êtes président de la nouvelle société civile du Congo. Nous parlons des solutions pour mettre fin à l'intolérance politique qui ne fait que grandir ces derniers temps. Il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Il y a Costa de Kananga au Kasaï occidental qui dit « Pour moi, la solution ne peut être trouvée car plusieurs politiciens peuvent être considérés comme des arbres coupés. C'est difficile pour les redresser. Devrons-nous craindre le pire, Jonas Chambela ?»
Non, il y a toujours des solutions. Je pense que à ce stade de choses, parce que nous sommes déjà engagés dans un processus et qu'il faut arriver jusqu'à terme, donc à ce niveau, à un autre niveau, nous encourageons si la CENI pouvait prendre l'initiative de faire rencontrer la majorité et l'opposition. Je pense.
Mais on a l'impression qu'elle ne fait que ça, puisqu'il y a un cadre où se retrouve.
Elle le fait très mal.
Tous les partis politiques.
Je pense qu'à ce stade, ce n'est pas toute l'opposition, toute la majorité qui est dans l'affaire. Il s'agit ici du PPRD avec le président Kabila et de l'autre côté, l'UDPS avec le président Tshisekedi. Est-ce qu'il ne peut pas tenter une rencontre entre ces deux hommes et que ces deux hommes passe un message à la population de la paix. Peut-être que les choses peuvent aller autrement. Donc, il ne faut pas que... Parfois, dans ce type de réunion, on délègue des gens qui n'ont pas le réel pouvoir. Et on ne sent pas l'impact de ces rencontres. Et il faut peut-être les organiser à un niveau très élevé où ça peut aller. Et pourquoi pas aussi la solution peut venir du côté de la communauté internationale. Faire une pression sur ces deux candidats et le faire rencontrer pour qu'ils puissent quand même parler. C'est un pays, c'est une nation, il y a des hommes, il y a des vies qu'il faut protéger. Ces gens peuvent se rencontrer et nous faire quand même un message de paix pour qu'on aboutisse quand même à ce processus. Donc moi j'estime, à notre humble avis, que si un message peut venir à ce niveau-là, le climat peut encore changer. Jusqu'ici, j'ai l'impression que les délégués n'ont pas joué leur rôle.
Il nous reste au moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Professeur Biyoya, comment vous analysez la proposition de Jonas Chambela?
Je l'ai personnellement, moi, énoncé depuis longtemps. Je pense que l'on ne peut pas, en fait, continuer à faire semblant. On ne doit pas continuer à se défier. On doit se mettre ensemble, en se mettant ensemble, en parlant aux gens, en disant aux gens ce qu'ils doivent faire, que les gens verront que les chefs se sont réconciliés. Et je pense que la CENI devrait aussi ne pas peut-être s'attendre à sanctionner. Parce que j'ai l'impression ici que le défi, il guette tout le monde. Il y a, les gens sont déjà fatigués, peut-être de certains, des uns des autres, et les gens voudraient sanctionner, siffler vite hors jeu ou condamner à imposer des pénalités. Faisons en sorte de nous sauver, nous tous. Parce que l'avenir est commun. L'élection doit être ce qui nous rassemble, qui nous rend forts. Parce que si l'élection nous divise, à l'issue du processus, le pays sera affaibli, il y aura des guerres, il y aura de la partition, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si Arad Sengni et si ceux qui veulent devenir le président ou ceux qui entourent le candidat président, s'ils ont conscience de l'avenir.
Merci, professeur Ida Sawyer. Comment vous également, vous percevez cette proposition que le professeur Biyo a adoptée?
Oui, donc, pour nous, je crois que les choses les plus importantes, c'est d'envoyer un message fort aux candidats et leurs partisans d'abstenir de recourir à des discours haineux et d'incitation à la violence et aussi à veiller de respecter les droits congolais ainsi que les codes de conduite pendant toute la durée de cette campagne. Nous avons adressé une lettre à chaque candidat présidentiel le 28 octobre avec une coalition de 73 organisations congolaises et internationales où nous avons appelé chaque candidat de respecter ses règles et ses droits, et nous espérons que la communauté internationale puisse impliquer ainsi que la CENI, les autorités congolaises et la CESAC pour assurer que ces règles sont suivies et qu'ils fassent tout possible pour assurer un climat apaisé et un processus transparent. Et je pense que c'est pour le peuple congolais à décider à voter le jour de l'élection et chaque Congolais et Congolaise qui peut voter a le droit de prendre sa décision et voter dans un climat apaisé avec un processus crédible et transparent. Donc nous avons besoin d'écouter les candidats et laisser le peuple congolais à décider dans un climat apaisé.
Merci Ida Sawyer, je considère cela comme votre conclusion. Jonas Tchombela, conclusion.
Oui, je crois que nous lançons ici un appel à M. Etienne Tshisekedi et au président Joseph Kabila de nous donner des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées par l'exemple.
Professeur Philippe Biyoya, un mot également en guise de conclusion.
Je voudrais formuler l'espoir que et la CENI et les candidats politiques privilégieront en fait la concorde, la réconciliation et le patriotisme pour sauver l'avenir du Congo dans son ensemble.
Merci beaucoup au professeur Philippe Biyoya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Merci à Ida Sawyer, chercheuse et chargée de plaidoyer à Human Rights Watch pour la RDC basée à Kinshasa. Merci enfin à Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile du Congo. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, d'avoir été très nombreux à nous suivre à travers le monde. Et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Guy Maté, Samuel Kachak, Kéline Kouté, qui ont travaillé sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, à la technique Jean-Noël Mokondo et Bob Landou. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiokapi.net ou la réécouter en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Présentation et coordination, Alain Irung Mouchige. Au revoir.